LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide, dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 5, la femme au foyer, patriote. C'est l'histoire d'une femme qui cherche du travail et qui n'en trouve pas. Elle s'appelle Amanda King, elle vit dans la banlieue de Washington au début des années 80 et elle fait de l'aérobic en passant l'aspirateur. Le temps lui manque, elle s'occupe de ses deux garçons et cherche du travail après un divorce qu'on imagine difficile. Après sa rencontre avec l'agent de la CIA Lee Stetson, elle se met à combattre à sa façon les ennemis intérieurs sur le sol américain. En électrocutant un tueur du KGB à l'aide d'un sèche-cheveux ou en faisant trébucher un mercenaire grâce à son parapluie, en guettant les suspects dans les centres commerciaux ou en débusquant à la sortie des écoles les espions cachés parmi les parents d'élèves. La guerre froide est dans nos têtes parce que même sans combat, les sociétés sont mobilisées. Même sans trancher, il faut convaincre que le bon côté du mur, c'est le sien. Une entreprise de mobilisation des esprits qui dure bien plus longtemps qu'une guerre.
Dites-moi ce que vous voulez que je fasse.
Amanda est un personnage de fiction, directement sorti des studios américains et de la série Les deux font la paire. La guerre froide, c'est la guerre de toutes et de tous. On crée des personnages de fiction pour convaincre, pour dépeindre la citoyenne patriote parfaite, pas très au courant, naïve à souhait, elle entre dans cette guerre par accident. La série est comique et familiale, aucun doute n'est émis sur la pertinence du combat du monde libre contre la dictature communiste, aucun doute non plus sur la victoire des États-Unis. C'est donc une guerre pour rire, dont l'issue ne fait pas mystère. Pourtant, avec ses ennemis tapis dans l'ombre, à chaque coin de rue, elle dit l'angoisse absolue de la guerre froide et la promesse faite aux femmes de part et d'autre du mur de Berlin.
La principale promesse que fait la RDA aux femmes, c'est la promesse de l'émancipation.
Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, la RDA.
Alors une émancipation qui se traduit par un appel à l'engagement des femmes dans le champ des responsabilités politiques. Alors c'est un succès tout à fait relatif puisque la plupart des postes de responsabilité sont occupés par des hommes. Mais dans le discours, l'émancipation passe par un engagement politique, on va dire partisan. L'émancipation passe aussi par l'accès à l'éducation et à un très haut niveau d'éducation qui va permettre aux femmes d'accéder, et là ça a été en partie une réalité, à des fonctions de cadre, notamment par des formations d'ingénieurs. Et puis il y a aussi une émancipation financière qui permet aux femmes d'être autonomes sur le plan financier en RDA. L'émancipation, j'allais dire, des tâches quotidiennes. Et donc concrètement, vous avez dans les entreprises d'État des buanderies, des cantines où elles peuvent non seulement se restaurer, mais aussi emporter des plats pour le soir ou pour donner à manger à leurs enfants. Comme ça fonctionne pas trop bien, notamment au niveau du système du lavage et du repassage dans les buanderies, et que ça coûte cher, que c'est compliqué à organiser, on va reprivatiser en fait ces tâches dans le courant des années 50. On va refaire poser sur les épaules des femmes ces activités ménagères. Il y aura très peu d'évolution dans les rapports hommes-femmes dans le champ de la sphère privée. Mais on va essayer d'alléger ça avec la modernisation technologique et donc l'entrée dans les foyers est-allemands de machines à laver, par exemple. Et puis, il y a une dernière forme d'émancipation qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il y a un lien très fort entre ce qu'on pourrait appeler la gouvernementabilité socialiste et ce qui relève de l'intime, c'est l'émancipation sexuelle. Il y a une forme d'émancipation sexuelle qui fait peur au régime parce que, et qui fait peur aux hommes en général et qui les inquiète beaucoup, mais qui en même temps est une réalité dans la capacité qu'ont ces femmes, notamment, c'est un peu paradoxal, mais par le biais du mariage jeune, d'avoir un enfant jeune et de pouvoir ensuite divorcer et de pouvoir s'émanciper en fait de la tutelle masculine, qu'elle soit éducative ou financière.
Maman, papa. Et effectivement, il y a une plus grande liberté sexuelle. Bon, alors, c'est lié à deux choses.
Sandrine Cotte est historienne et spécialiste de l'histoire allemande.
D'une part, quand même le déclin de la pression religieuse, hein, sont quand même des pays athées. Donc la morale religieuse déclinant, effectivement, les interdits sexuels, eux aussi, déclinent. Et la deuxième chose qui joue un rôle extrêmement important et qui est bien mis en évidence par ces historiennes, souvent des femmes, c'est l'absence de publicité. C'est-à-dire, le corps des femmes n'est pas marchandisé à l'Est. Il n'y a pas de publicité. On ne voit pas des images de corps des femmes qui permettent de vendre des voitures ou des choses comme ça. La femme n'a pas un corps marchand. Donc, la femme n'est pas d'abord une marchandise. Alors qu'à l'Ouest, quand même, le corps de la femme, c'est une marchandise. Il y a le fait aussi que les femmes, elles sont autonomes, donc elles n'ont pas évidemment besoin d'attendre leur mari bien maquillé, etc. Et alors ça se voit très très bien dans les magazines, par exemple ouest-allemand et est-allemand, ou entre les magazines soviétiques et les magazines états-uniens, donc qui sont destinés aux femmes. Alors là, d'un côté, on a la femme toute pimpante avec son aspirateur, mais qui est super maquillée avec ses talons hauts, qui est en train de faire le ménage et qui attend donc rentre son mari et ses enfants. Et puis de l'autre côté, on a la femme ouvrière ou la femme sur son tracteur, etc. Et la femme est représentée de manière totalement différente. Elle n'attend pas son gagneur de pain et elle n'a pas pour fonction de plaire à son gagneur de pain.
L'un de ces savants soviétiques est ce soir parmi nous.
Lucien Barnier pour 5 colonnes à la une, le 2 octobre 1959.
Vous êtes Madame Valeria Troitskaya. Vous êtes certes une scientifique, mais aussi une épouse, une mère de famille. Eh bien, quelle place attribuez-vous à la science dans votre vie ?
Voyez-vous, vous posez une question très difficile à une femme. Vraiment. Parce que naturellement, tous les devoirs restent. Mais tout de même, on n'est pas heureux sans la science. Alors j'ai fini l'université. Alors je me marie. J'ai eu des enfants. La nécessité était de ne pas travailler quelques années. Et j'étais vraiment tout à fait malheureux. Peut-être c'est une réponse.
Le projet d'émancipation du côté soviétique, il est beaucoup plus complet.
Sabine Dulin est spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Europe orientale.
Il s'agit non seulement de développer le travail des femmes, qui est une réalité. Donc on a des pourcentages de femmes qui travaillent absolument énormes dans les pays de l'Est en comparaison des pays de l'Ouest. C'est en Allemagne de l'Est autour de 90% des femmes qui travaillent. Alors qu'en Allemagne de l'Ouest, ça doit être autour de 55%, 60% maximum dans les années 60. En URSS également, les femmes travaillent à plus de 80%. Alors, la femme travaille. Mais, en revanche, incontestablement, le rôle des femmes dans la vie publique et dans la vie professionnelle, et on a des superbes films qui le montrent, dans les années 70, le cinéma de Riazanov, par exemple, où on voit des personnages de femmes qui dirigent des entreprises, ce qu'on ne voit pas à l'époque en Occident. Mais il se développera du coup dans les pays de l'Est un féminisme dissident qui justement dénonce la fausse émancipation des femmes dans les systèmes socialistes et qui prend contact avec les féministes en Occident. Malgré tout, leur positionnements ne sont pas les mêmes, hein, parce qu'on est justement dans des réalisations et des projets féministes très différents de part et d'autre du rideau de fer.
Finalement, l'idée de révolution, c'est quelque chose de très masculin. Et si on va avoir des femmes au pouvoir, il y en aura finalement très très peu. Hein.
Andrei Kozovoy est historien et spécialiste de la guerre froide côté soviétique.
Pour vous dire qu'à l'époque soviétique, il y a eu une seule femme ministre de la culture, Fourtseva, sous Khrouchtchev, qui était une favorite de Khrouchtchev et qui a tristement fini sous Brejnev, elle s'est suicidée, voilà. Donc, il y a ce que la propagande dit des femmes pour l'Union soviétique, et puis il y a la réalité, évidemment, qui est beaucoup moins présentable et acceptable. Et certainement, il y a des images de ce que fait la femme en Occident et comment elle vit et qui filtre. À l'époque de la guerre froide, notamment pendant les périodes de détente, les femmes soviétiques vont par exemple découvrir le mode de vie des femmes occidentales. Et ça, il y aura beaucoup de femmes qui vont être fascinées par ça. Et ça va aussi contribué à affaiblir l'impact de la propagande officielle, si vous voulez, des magazines qui circulent, parce qu'il y a un accord qui est signé entre l'URSS et les États-Unis sur un échange de magazines, on va dire, publicitaires. Vous avez Soviet Life aux États-Unis qui présente la vie soviétique sous un jour absolument irréprochable, et puis America, l'équivalent américain qui circule en Union soviétique, où on a effectivement des photos de la vie, y compris des femmes et des actrices cinématographiques. Il y a une fascination effectivement pour ce que c'est que la féminité, ce que c'est que le féminisme aussi, ce que le féminisme a apporté réellement en Occident, qui existe en Union soviétique. Et pour revenir juste à l'image du cinéma, à quelqu'un qui était très populaire en Union soviétique, chez les actrices, mais qui en même temps a été une figure politique importante, c'est Jane Fonda, qui a joué un rôle important aussi dans cette américanophilie qui se diffuse en Union soviétique dans les années 60-70.
Alors là, chers petites amies, je suis ici chez moi pour la vaisselle.
Si à l'Est, les femmes travaillent, à l'Ouest, dans les années 50 et 60, c'est le père de famille qui assure le revenu et le niveau de vie du foyer. Les femmes y travaillent de moins en moins et leur décor se résume souvent au salon avec son canapé et sa télé. Les aventures d'Amanda naissent souvent dans sa base arrière, sa cuisine équipée. C'est une vitrine de l'American Way of Life, version années 80, juste avant la rupture féministe qui va bientôt tout changer. Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas.
On alterne toujours entre la vie de bureau et la vie domestique d'Amanda.
Julie Richard travaille sur l'histoire des représentations de la mort dans les séries américaines depuis le début de la guerre froide.
Donc il y a ses deux jeunes enfants, donc on voit comment elle s'occupe d'eux.
Tu t'es fait belle aujourd'hui.
À un moment, elle est soupçonnée d'être une espionne parce qu'elle se rend à l'ambassade de Tchécoslovaquie, mais elle le fait parce que son fils a besoin de faire un exposé sur la Tchécoslovaquie. Elle vient chercher des informations un peu touristiques sur la Tchécoslovaquie. Donc elle les aide dans leur travail scolaire. Voilà, Mrs. King vit cette vie domestique, et c'est d'ailleurs cette vie domestique qui fait qu'elle est aussi une bonne espionne au service des États-Unis, parce que comme elle est dans cette vie domestique, elle connaît la vraie vie. Et aussi, comme elle est dans cette vie domestique, elle a des réactions non professionnelles qui sont forcément surprenantes, inattendues. Et donc, ça aide à faire progresser l'intrigue. Et à de nombreuses reprises, ça sauve même le héros. Donc ici, la vie domestique vient au secours du héros dans sa lutte dans la guerre froide.
Vous travaillez à l'extérieur souvent, ou bien c'est surtout les tables d'écoute?
Qu'est-ce que vous faites, vous, déjà?
Je suis mère de famille et en plus cheptaine de louveteau. Et je cherche un travail.
Vous savez, je pense qu'en fait, il n'est jamais trop tard pour qu'une femme fasse ce qu'elle a envie de faire. Alors, comme j'ai un métier qui me plaît maintenant, j'ai décidé de retourner à l'école.
Oh,
des cours de cuisine.
C'est une bonne idée.
Madame Welch, celle de la télé, c'est avec elle que je prends des cours. Nancy Reagan ne fait pas cuire un œuf sans elle.
On est vraiment au cœur de l'idéologie américaine, hein, l'idée que l'abondance va guérir de tentations révolutionnaires, communistes, du partage.
Marjolaine Boutet est historienne et spécialiste des séries télévisées.
Donc il y a évidemment la publicité, hein, qui est de plus en plus présente sur les télévisions européennes à partir des années 70. Évidemment, elle est toujours présente à la télévision aux États-Unis. Et puis, un portrait, et notamment de l'Amérique, hein, parce que c'est le gros diffuseur de fiction et de séries télévisées, qui donne cette image de cette Amérique de la banlieue, avec des femmes au foyer qui ont tout le confort moderne, l'électroménager, qui sont tirées à quatre épingles, qui sont très heureuses dans leur maison avec leurs deux bambins et la pelouse, et de faire des petits plats au mari qui rentre avec sa voiture du travail dans la grande ville. Enfin voilà, il y a cette image là qui est quand même très présente et qui est là, je pense, pour rassurer, et qui fait partie aussi de cette normalisation très forte de la société, notamment de la société américaine dans les années 50 et 60, mais c'est aussi vrai en Europe, et c'est ce qui va aboutir à l'explosion en mai 68, parce que c'est trop pesant.
Si Amanda agit depuis sa base arrière domestique, la guerre froide aussi, en tout cas en partie. En 1959, Richard Nixon, le vice-président des États-Unis, se rend à Moscou pour rencontrer Nikita Khrouchtchev, qui dirige alors l'Union soviétique. Le temps est à la détente, les deux hommes échangent à l'occasion d'un salon des arts ménagers devant les caméras de télévision. C'est le Kitchen Debate, le débat de la cuisine, qui tourne très vite au vinaigre. Nixon présente une cuisine californienne dernier cri et se félicite du talent des États-Unis pour adoucir le quotidien des femmes. Khrouchtchev s'étrangle presque d'indignation et rejette avec virulence cette vision des femmes qui n'a certainement pas cours sous le régime communiste.
59 est un tournant hein, dans cette guerre froide qui jusqu'ici se focalisait sur les armements.
Andrei Kozovoy.
Et elle va toujours avoir cette dimension de militaire hein, très importante. Mais à partir de 59, la rivalité Est-Ouest va se focaliser sur le confort de vie, les modes de consommation. Et là, évidemment, l'Union soviétique ne sera pas gagnante parce que une bonne part du budget de l'État va être consacrée aux armements. Khrouchtchev aura tenté de limiter le poids du complexe militaro-industriel au profit des biens de consommation par une réforme de l'armée soviétique, par exemple. Il a envoyé une bonne partie des militaires à la retraite, une retraite anticipée, hein, quelque chose qui va lui être reproché hein, en 1964 quand il va être évincé du pouvoir.
Le nouveau nerf de la guerre froide, c'est le confort de vie, et les États-Unis avec l'Europe occidentale ont une longueur d'avance avec leur société d'abondance et leurs trente glorieuses. Une promesse de bonheur par la consommation qui préoccupe aussi à l'Est, conscient du danger représenté par ce nouveau front. En Allemagne de l'Est, on dégaine une arme fatale, le poulet rôti.
Pourquoi y a-t-il autant de monde ? Il n'y a pas de viande aujourd'hui.
Prenez plutôt du poulet rôti.
Il y a un mot allemand pour désigner poulet, c'est Hähnchen.
Emmanuel Droit.
Mais en Allemagne de l'Est, ça aussi c'est la culture de guerre froide qui conduit finalement à inventer de nouveaux noms pour qualifier des produits qui, dans la langue allemande, sont nommés d'une autre manière. Et donc le poulet est-allemand, lui, il s'appelle le broiler. Il est produit de manière évidemment complètement industrialisée et à partir de la fin des années 60, début des années 70, on va promettre aux Allemands de l'Est ben finalement un nouveau chapitre de l'histoire du socialisme, c'est le chapitre de la société de consommation. Parce qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui ont droit au poulet rôti le dimanche. Et donc on voit se multiplier d'abord à Berlin, puis dans la plupart des villes petites ou moyennes de RDA, on voit se multiplier, on dirait en allemand, des Stuben, donc des petits magasins, où on va pouvoir acheter un quart de poulet, un demi-poulet, voire un poulet complet. Et surtout, c'est accompagné de tout un discours médical et sanitaire sur l'équilibre alimentaire et la nécessité aussi de peut-être de réduire la consommation de charcuterie, de viande de porc, et donc de manger davantage de viande blanche, parce que vous savez que l'homme socialiste, ça doit être un homme sain, il doit être en bonne santé, il doit manger de manière équilibrée. Donc c'est une manière aussi pour le régime de montrer que le socialisme est vraiment synonyme de progrès, qu'il est capable de proposer des produits alimentaires de qualité, on va dire, comparable à ce que mangent les Occidentaux. Donc il y a un enjeu autour du poulet en RDA qui a été en effet très fort.
Les cuisines équipées et le poulet rôti font leur entrée fracassante dans l'arsenal de guerre comme autant de promesses d'un futur heureux, avec en tête toujours mobiliser sans relâche les populations.
Im Namen von 2 Millionen Pionieren grüßen wir alle Frauen unserer Republik. Für Frieden und Sozialismus, seid bereit.
La jeunesse, elle va être aussi amenée à se mobiliser dans un esprit de guerre froide, dans un esprit de compétition, à la fois à l'échelle du savoir, avec des ambitions, des exigences dans un certain nombre de disciplines qui vont conduire la RDA à être en avance ou à avoir un niveau éducatif ou scolaire plus important que son homologue ouest-allemand dans certaines disciplines comme les disciplines des sciences dures, à commencer par les mathématiques. Et puis, dans le champ extrascolaire, vous avez des organisations de jeunesse pour les enfants âgés entre 6 et 14 ans et pour les adolescents, les jeunes adultes, qui vont mobiliser la jeunesse de deux manières. Il y a une mobilisation idéologique qui notamment s'incarne dans la mobilisation des jeunes à des grandes manifestations de masse qui sont parfois très ritualisées, comme le 1er mai. Et puis vous avez une mobilisation qui passe aussi par le sport et l'éducation militaire, avec des activités paramilitaires qui se mettent en place dès 1950, dans le contexte de la guerre de Corée, où on va chercher à préparer, par une éducation patriotique, les jeunes Allemands de l'Est à défendre le socialisme, toujours dans un scénario un peu paranoïaque, évidemment, d'une menace qui vient de l'extérieur et qui est portée évidemment par les impérialistes américains et occidentaux au sens large du terme. Jusqu'à la mort de Staline, la Stasi, qui est cette police politique naissante, puisqu'elle a été créée en février 1950, elle est dans une logique de guerre froide sur le plan intérieur, c'est-à-dire qu'elle mène une guerre intérieure contre les ennemis. Et donc, elle va reprendre en fait le discours, les mots utilisés par la police soviétique depuis l'époque stalinienne. Et donc, elle va faire la chasse aux saboteurs, aux bandits, aux traîtres, en éliminant finalement toute forme visible d'opposition et de résistance. Quand on bascule dans une phase qu'on pourrait qualifier de post-totalitaire, la Stasi, dans une logique notamment d'extension des champs de la surveillance et de sa capacité à pénétrer finalement potentiellement, mais de manière très inégale, tous les secteurs de la société, distiller une culture de la méfiance qui produit de l'autocontrôle. Et de cette manière, on va développer des techniques de destruction psychologique, des mesures qui sont travaillées par les agents de la Stasi, puis s'appuyer sur une armée d'informateurs par lesquels on va essayer d'obtenir des informations de qualité pour faire du chantage, exercer des pressions sur un certain nombre d'Allemands de l'Est. Et puis vous avez toujours cette minorité, on dirait en allemand de Rote Socken, c'est-à-dire de chaussettes rouges, de citoyens zélés, qui vraiment dans cette culture de défense du régime, menacée de l'intérieur et menacée de l'extérieur, collaborent et n'ont aucun problème pour collaborer avec la Stasi parce qu'ils ont l'impression d'œuvrer finalement au bien commun.
Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on a aussi son lot de paranoïa. Traquer les ennemis de l'intérieur devient une obsession et une politique d'État, notamment par l'executive order. Un décret présidentiel de 1947 que l'on doit au président Truman et aux conséquences ravageuses.
C'est un document qui met en place un système de contrôle de la loyauté politique des fonctionnaires fédéraux américains.
Alexandre Riosbord est historien, spécialiste de l'appareil d'État états-unien.
Alors c'est un moment important, y compris dans la mémoire de la guerre froide, parce que c'est le début, en quelque sorte le coup d'envoi un peu bruyant de ce qu'on va appeler les années McCarthy, quoi, donc les années de répression politique intérieure, de chasse aux sorcières, de chasse aux subversifs, et donc de chasse aux communistes cachés aux États-Unis, et plus particulièrement dans ce cas-là, à l'intérieur du gouvernement américain. Donc il modifie cette organisation du recrutement des fonctionnaires en exigeant de ces fonctionnaires le passage d'un test de loyauté politique au gouvernement américain. Les fonctionnaires entrants seront entendus par les représentants de la Civil Service Commission. Et puis une fois leur dossier considéré comme recevable, ils pourront être embauchés s'ils sont considérés comme loyaux. Pour les fonctionnaires déjà employés par l'État fédéral, ils devront passer devant un board à l'intérieur de leur ministère. Alors, il y a plusieurs affaires d'espionnage, notamment des dénonciations par un ancien employé du département d'État qui s'appelle Whitaker Chambers, qui dénonce la présence de sympathisants communistes à l'intérieur du département d'État. Alors il ne donne pas encore de nom, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais Hoover s'en sert pour monter voir Truman et lui dire « voilà, on a des éléments qui nous disent que l'État est effectivement infiltré ». Bref, il y a beaucoup de signes politiques qui, à l'hiver 1946-47, signalent à Truman l'imminence d'une offensive sur ce plan-là. Son objectif n'est pas véritablement, même s'il peut être lui-même inquiet et d'autres autour de lui inquiets, sincèrement inquiets de la possibilité de la pénétration de l'État américain par des agents soviétiques ou des sympathisants communistes. On peut faire une petite parenthèse. On sait aujourd'hui que c'est le cas. Donc tout ça n'est pas complètement faux. La puissance du FBI dans le processus et le flou de la définition des standards d'évaluation de la loyauté des employés publics vont permettre à la machine de s'emballer, en fait.
Qu'est-ce que c'est ?
Tout simplement un serment de loyauté.
Envers CBS ?
Et envers l'Amérique.
Êtes-vous à l'heure actuelle ou
pendant un
court
instant, j'ai cru que c'était une blague, mais c'est pas le cas.
Membre d'un groupe que le procureur général qualifierait de subversif ?
Je sais pas.
Si tu refuses de signer, ça nous crée des ennuis.
Si je refuse, je serai viré, c'est évident.
Parce que la seule marque, ou la principale marque de leur activité, c'est de renvoyer des gens ou de les dénoncer comme subversifs. Elle est redoublée, cette chasse, ne l'oublions pas, par les commissions parlementaires qui, à partir de 48-49, vont repartir à l'assaut. Elle l'avait annoncé en 46, en 47-48-49, elle repasse à l'assaut, puis à partir de 1950, ce sera la commission McCarthy qui se rendra très célèbre. Et puis, dernière chose qui échappe à Truman, c'est qu'il avait comme idée de faire un coup politique en contrôlant le système. Au final, l'effet est contraire. C'est-à-dire que l'effet est un effet de justification et d'institutionnalisation dans les têtes de l'idée que des subversifs sont effectivement à l'œuvre dans le gouvernement. La preuve, le président le prend en charge, crée un programme, institutionnalise la chasse et on trouve des gens. Donc l'effet politique à moyen et long terme est en fait contraire. C'est-à-dire qu'il va nourrir l'idée que le gouvernement américain est effectivement pénétré par des subversifs. C'est-à-dire qu'à long terme, non seulement Truman et le Parti démocrate ne vont pas réussir à éteindre le feu de la contre-subversion, mais ils vont l'alimenter et se retrouver confrontés à la fin des années 40, au début des années 50, au feu du McCarthyisme. C'est-à-dire à l'action, à la dénonciation croissante d'une pénétration de l'État par des éléments subversifs, dénonciation de plus en plus violente, dénonciation de plus en plus anxiogène pour la population américaine, et puis visant de plus en plus grave dans la mesure où on était parti à la fin des années 30 de WPA et des programmes finançant des écrivains et des hommes de théâtre. Sous McCarthy, on attaquera, et c'est ce qui provoquera la chute de McCarthy, on attaquera le département d'État, c'est-à-dire la politique étrangère, puis l'armée. Et c'est en s'attaquant à l'armée que McCarthy finira par tomber. Mais on sera allé jusqu'au cœur de l'appareil de sécurité nationale américain, c'est-à-dire qu'on aura, on aura pu affirmer publiquement, la commission McCarthy, le UAC auront pu affirmer publiquement que le cœur de l'appareil de sécurité nationale américain était pénétré par les communistes. C'est le principal échec politique parmi les conséquences de ce programme de loyauté.
Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil ?
Amanda King. Je vous appelle pour vous dire de me ficher la paix.
Madame King, avez-vous remarqué des voitures suspectes garées devant chez vous ?
Quoi ?
Il est possible que vous soyez surveillée.
En réalité, je ne vois pas Mrs. King comme quelqu'un qui va apprendre à être un espion.
Julie Richard.
Je vois Mrs. King comme quelqu'un qui va apprendre à Lee Stetson à être un homme. Parce que, en fait, ça va être son travail à elle, ça va être de le socialiser en quelque sorte, de lui apprendre la vraie vie. Parce que Lee Stetson, c'est un espion international qui a vécu dans plein de pays, qui a jamais posé ses valises où que ce soit. Et donc, c'est un peu un homme-enfant, il débarque à Washington... Il est très attaché à sa voiture, voilà, c'est son jouet préféré, il passe de conquête en conquête. Et donc, ça va être le travail de Mrs. King de lui apprendre. Il y a plusieurs épisodes où ils doivent jouer un couple marié et où ils doivent prétendre vivre ensemble en banlieue. Et donc, elle doit lui apprendre comment vivre en banlieue, parce qu'en fait, il sait pas comment faire. Il sait pas trouver le robinet pour éteindre l'arrosage automatique. Il sait pas qu'on cache la clé de la maison quelque part autour de la porte au cas où on l'a oublié. Voilà. Toutes ces choses-là, elle va devoir lui apprendre, ça va être son travail. Elle va aussi lui apprendre à exprimer ses sentiments, elle va lui apprendre à construire une vie sentimentale, à s'ouvrir à ses propres émotions. Et à la fin, elle le convainc même d'entrer dans ce mariage, dans cette famille qui est déjà faite. Donc, à mon sens, elle apprend jamais vraiment à être une espionne, puisque c'est une des blagues récurrentes de la série, c'est qu'elle demande toujours à ce qu'elle puisse enfin commencer son programme d'entraînement pour enfin devenir une vraie espionne. Et on lui dit, mais non, c'est pas la peine, vous n'êtes qu'une secrétaire, vous faites des notes de frais, vous embêtez pas avec tout ça, ça sert à rien. Donc en fait, c'est vraiment le travail inverse qui est fait. Et donc, on est bien là dans la sitcom, dans la comédie romantique, où c'est le travail de la femme d'apprendre à l'homme de ne plus être un homme enfant, mais à être un homme, un mari, un père. À la fin, ils se marient tous les deux, donc il finit par embrasser l'American Way of Life entièrement. À être vraiment un vrai patriote, puisqu'il se retrouve avec sa maison de banlieue, ses enfants, une femme, un travail. Enfin, on est vraiment là au cœur du rêve américain qu'enfin il peut réaliser.
Est-ce que je serai rémunérée ? Oui, parce que justement, je cherche du travail.
Dites au revoir, madame.
Au revoir, au revoir.
Scarecrow, je crois qu'on t'a trouvé une partenaire idéale.
Épisode 6, l'espion en perdition.
Le président a annoncé qu'un avion météorologique de la NASA a disparu il y a 4 jours au nord de la frontière turque. L'agence spatiale craint que son pilote ait péri dans l'accident.
C'est l'histoire d'un homme que tout le monde déteste. En 1962, Francis Gary Powers, pilote de la CIA, rentre chez lui aux États-Unis après un procès très médiatisé et un séjour beaucoup trop long dans les prisons soviétiques. Soulagé, Powers découvre pourtant avec effroi qu'on parle de lui comme d'un piètre patriote, un espion de mauvaise qualité qui a rechigné au sacrifice de sa vie. Au cours de la guerre froide, si on ne se bat pas officiellement avec des armes, on se bat à coups de renseignements, de messages très confidentiels, d'opérations sous couverture. Et comme le renseignement, ça se périme très vite, la chasse ne s'arrête jamais. Les blocs de l'Est et de l'Ouest placent des hommes, des femmes, des correspondants, des agents dormants pour glaner, apprendre, enregistrer les activités de l'autre, de l'ennemi. L'espionnage, ses opérations couvertes, l'anonymat requis, les fausses identités, on n'en sait pas grand-chose. Mais quand on le sait, c'est que ça s'est mal passé. Et de Gary Powers, on en a beaucoup entendu parler.
Midi Actualité.
La planète entière a même suivi ses aventures en direct, et parfois avec beaucoup d'ironie, comme Maurice Ferraud sur les ondes françaises le 7 mai 1960.
Les Américains reconnaissent effectivement qu'un avion U-2 a pu aller au-dessus de l'Union soviétique et a pu y aller probablement, dit le communiqué, en mission de renseignement. Et immédiatement après, le communiqué déraille sur une voie, je ne dirais pas une voie de garage, mais sur une voie d'explication, admettant que la guerre de l'espionnage a toujours existé, sous-entendant qu'elle existera encore, disant expressément, mon Dieu, que si les Russes ne cachaient pas tellement leurs secrets, on n'aurait pas besoin d'aller chez eux pour essayer de les découvrir au service de la liberté et de l'humanité, évidemment, puisqu'il s'agit de déceler les risques d'une attaque par surprise. Évidemment, c'est une reconnaissance, et quand on sait, nous l'avons dit hier, nous le répéterons toujours, que les services secrets se font une guerre secrète et que cela est connu, mais cela ne sert à rien de le reconnaître, il faut ne pas se laisser prendre, et mon Dieu, le communiqué l'indique alors bien plus nettement qu'entre les lignes, on s'est laissé prendre la main dans le sac.
Celui qui pilote ce fameux avion U-2, c'est bien sûr Gary Powers. Son avion a été abattu le 1er mai 1960.
L'avion est abattu par un missile soviétique, il est abattu le 1er mai.
Alexandre Riosbord est historien, spécialiste de l'appareil d'État états-unien.
Dans un premier temps, c'est le silence. Personne ne dit rien. Les soviétiques attendent. Et puis, ils vont annoncer, ne voyant pas venir de réaction américaine, ils vont faire un communiqué officiel le 5 mai pour dire qu'ils ont abattu un avion espion. La réaction américaine le même jour, donc le 5 mai, la réponse américaine, le premier communiqué du département d'État, c'est de jouer la surprise. On ne comprend pas. Pour une bonne et simple raison, c'est que les Américains pensent que les soviétiques n'ont pas de preuves. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'avion a un mécanisme d'autodestruction qui doit, s'il est abattu, le détruire. Quant au pilote, on pense qu'abattu à 70 000 pieds, il n'a aucune chance de survivre. Et si malgré tout, il devait survivre, il est équipé d'une pilule qui doit lui permettre de se suicider, de ne pas tomber aux mains des autorités soviétiques. Or, il se trouve que l'avion a été abattu, peut-être un peu plus bas, on ne sait pas exactement, il n'y a pas d'enquête qui ont conclu exactement là-dessus. En tout cas, ils ont des parties de l'appareil, ils ont une partie de son équipement, et puis surtout, ils ont récupéré le pilote, qui n'a pas eu la courtoisie de se suicider. Francis Gary Powers a été attrapé, et donc, dans un premier temps, les soviétiques ne le disent pas, hein, le 5 mai. Ils vont dire, on a abattu un avion espion, et donc les Américains vont jouer aux idiots, en quelque sorte. Le département d'État va faire une déclaration en expliquant que, effectivement, ils ont perdu un avion. C'était une déclaration conjointe avec la NASA, mais c'est un avion de recherche civil, qui visiblement, et le pilote lui-même étant évidemment civil, c'est un avion de recherche. Il s'est perdu parce que, visiblement, il y a eu un problème avec le système d'oxygénation du pilote dans cet avion de recherche. Et donc, suite à cet incident, il a dû dévier de sa course et il a dû, par accident, rentrer dans l'espace soviétique. Et donc, il a été abattu, mais ça n'a rien à voir avec une mission militaire. Il s'agit d'une mission de recherche qui décollait depuis la Turquie. Et donc, le département d'État est bien embêté, mais il ne s'agit pas d'un vol d'un avion espion. Alors les soviétiques vont attendre 48 heures, et puis le 7 mai, ils vont faire un deuxième communiqué dans lequel ils vont annoncer que non seulement c'était bien un avion espion, mais en plus ils ont le pilote et l'avion. Ils ont les preuves de la mission et de son objectif. Il est certain qu'à court terme, en tout cas, c'est le signe d'une remontée des tensions entre les deux pays qui se poursuivront dans les mois qui suivent.
Messieurs, je dois vous rappeler que vous avez tous juré de garder le secret. Vous avez été choisi pour devenir membre de la société la plus secrète d'Amérique.
I was trained to collect military information about the United States Armed Forces.
Il faut bien se rendre compte que le système du renseignement soviétique se met en place.
Andrei Kozovoy est historien et spécialiste des services de renseignement soviétiques.
Donc dans les années en gros 17-20, après le coup d'État bolchevique, est créée la Tcheka, commission extraordinaire. Nous sommes en décembre 1917. 3 ans plus tard, apparaît au sein de la Tcheka une structure qui est dédiée au renseignement extérieur, qui s'appelle l'INO. Et ça va se développer jusqu'en 1954 avec l'apparition d'une organisation qu'on connaît bien qui est le KGB. Et donc la mission, si vous voulez, des espions soviétiques est déjà bien fixée avant le début de la guerre froide en 45-47. Mais c'est vrai que les agents secrets soviétiques vont disposer de moyens considérables, accrus, pendant la guerre froide, qui est aussi une guerre d'espions, notamment sur le territoire américain et visant le territoire américain.
Vous comprenez que notre conversation ne doit pas sortir de cette pièce.
Bien sûr.
Nous nous engageons finalement dans cette guerre, pas parce que nous le voulons, mais parce que nous le devons et qu'il le faut. Et le président m'a demandé de réfléchir à la création d'un service de renseignement à l'étranger. Si ça se fait, je vais rechercher des jeunes patriotes honorables, prometteurs, issus d'un bon milieu pour diriger les différents services. Ne me répondez pas tout de suite. Réfléchissez. Mais il ne s'agit pas d'une fraternité de garçons qui viennent pour jouer avec leur bite. C'est du sérieux. Pour l'Amérique.
Dès l'hiver 46, le printemps 47, la nécessité d'agir fait l'objet d'un consensus au sein de l'appareil gouvernemental américain.
Alexandre Riosbord.
Et donc, on va commencer à mettre en place les moyens d'action sur ces terrains clandestins. La première grande opération politique connue, c'est l'intervention en Italie, hein, où les élections menacent de porter au pouvoir les communistes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va soutenir la démocratie chrétienne. Très concrètement, on va la soutenir financièrement pour l'aider à financer sa campagne. Et puis, on va mener des opérations de déstabilisation de l'adversaire en faisant fuiter les rumeurs. C'est ce qu'on appelle les opérations de subversion politique. La deuxième modalité d'intervention, c'est la modalité d'intervention psychologique. On va viser l'Union soviétique avec des opérations qui ressemblent aux opérations qu'on menait pendant la guerre dans l'Europe occupée ou à destination de l'Europe occupée. Pensez à la création de Radio Free Europe, qui va être financée par la CIA, qui est en fait une réplique de ce que faisait la BBC, en fait, hein, pour l'Europe occupée. Et puis, dans le même mouvement, on va commencer des opérations de type paramilitaire, là aussi copiées sur les modèles qui sont les modèles de la Seconde Guerre mondiale, là aussi, dans un premier temps, destinées à travailler contre l'ennemi principal, le bloc de l'Est. Et donc, on va mener des opérations à la fois en Lituanie, avec l'aide des réseaux des anciens services de renseignement allemands, les réseaux Gehlen. On va mener des opérations en Ukraine et on va mener des opérations dans les Balkans, en particulier en Albanie, qui sont des parachutages de l'aide aux mouvements de résistance qui vont se révéler dramatiquement inefficaces. Parce que il se trouve que des espions soviétiques sont à l'intérieur des services de renseignement, en particulier britanniques, entre autres principalement ce qu'on appelle les 5 de Cambridge, et que donc ces informations sont éventées, et on le sait particulièrement pour les opérations menées en Albanie, les gens ne sont pas plutôt parachutés qu'ils sont arrêtés par les soviétiques, puisque les informations sont communiquées aux services de renseignement de Moscou. Mais il n'empêche que ces modalités d'opération se mettent en place, et que donc les services de renseignement américains deviennent très vite, entre 46 et 49, des instruments d'action clandestins dans la guerre froide.
Miami est notre centre d'opération au large du Guatemala.
Prenez votre maillot, monsieur Brocco. Nous allons nous baigner.
Quelles sont pour vous nos chances de réussite?
Si nous avons l'appui qu'on nous a promis, je dirais qu'elles sont plutôt bonnes.
La Maison Blanche.
Maintenant, tout le monde attend la bonne nouvelle. Alors, bonne chance.
C'est une promesse que la CIA peut faire au gouvernement américain à partir du début des années 50, qui est celle d'être capable d'aller jusqu'à changer des gouvernements dans des pays dits du tiers-monde, hein, qu'on commence à appeler du tiers-monde à cette époque-là. Mais tout de même, pour des sommes modiques, changer véritablement le cours des choses, c'est-à-dire aider à la mise en place de gouvernements plus favorable.
On a la sensation, Andrei Kozhevoy, que c'est nettement plus facile d'espionner l'Ouest que d'espionner l'Est. Est-ce que vous confirmez cette impression?
Je la confirme maintenant, ça peut être aussi conséquence d'une déformation du regard que l'on porte, cette obsession des services secrets russes, qui est une obsession et une déformation qui est en partie liée à nos fantasmes sur l'espion russe, omniscient, tout puissant, etc. C'est une image qui a été créée en partie par les services secrets soviétiques et qu'ils ont véhiculé, hein, cette image de toute puissance, etc. Mais qui correspond en bonne partie quand même aussi à la réalité. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on a face à soi un régime totalitaire, hein, un régime dont l'un des piliers ce sont les services secrets. Donc il faut bien se rendre compte que le KGB est à la fois une immense machine policière qui surveille sa population, et qui informe le parti sur ce qu'ils appellent les humeurs de la population, son état, donc est-ce qu'il y a des opposants, etc. Et puis, une partie du KGB, évidemment, fait du renseignement. Une autre partie s'occupe de désinformer l'opinion publique occidentale. Donc c'est une immense machine qui reçoit des subventions, on va dire, des fonds considérables qui n'ont pas d'équivalent dans le monde occidental. Voilà, et qui, de par le secret qui entoure ce système, cette machine, projette une image effectivement de toute puissance.
Vous allez devoir apprendre aussi vite et aussi rigoureusement que possible les techniques de renseignement en Angleterre, les opérations clandestines, en particulier le contre-espionnage, l'emploi de l'information, de la désinformation, et comment leur utilisation devient finalement le pouvoir.
Partout, le service de renseignement en guerre froide peut faire scandale, mais disons qu'il ne fait pas scandale au même niveau.
Alexandre Riosbord.
L'exemple américain est intéressant parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le premier mouvement du gouvernement américain, c'est de fermer les services de renseignement créés pendant la Seconde Guerre mondiale. On attribue à Truman un mot célèbre qui est qu'aux États-Unis, on n'a pas besoin de Gestapo en dehors de la période de la guerre. Le retour à la paix, c'est le retour à la normale, c'est la fermeture de ce service qui n'avait de vocation que temporaire pendant le conflit. Et il faudra le début de la guerre froide pour que graduellement, à la fois, l'appareil de décision civile et l'opinion publique se rendent à l'idée qu'un appareil de renseignement est nécessaire. Ça n'ira pas sans résistance politique, qui viendront à la fois des critiques que sans doute vos auditeurs peuvent imaginer comme les plus naturelles, celles des libéraux, celles des gens qui croient dans le règlement pacifique des conflits, qui veulent la paix. Mais la résistance, elle viendra aussi et surtout au Parlement et dans les débats politiques des conservateurs qui, eux, veulent un retour à la normale, qui est le retour sur les affaires américaines, sur une forme d'isolationnisme, qui veulent un démantèlement du super-État qui s'est construit pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui veulent payer moins d'impôts, qui veulent moins de dépenses publiques, qui veulent des budgets équilibrés, et donc qui veulent une déflation de cet État de défense et de sécurité nationale, qui veulent certainement pas qu'on instaure un appareil de renseignement au sein de l'État américain. Mais en fait, le besoin fonctionnel est trop important. Et donc, dès 1946, il y a la mise en place de ce qu'on appelle le Central Intelligence Group, qui est une première cellule de coordination du renseignement. Et puis, en 1947, il y aura la mise en place de la CIA. À partir de là, on rentre dans une première période des années 50, un premier âge d'or des opérations clandestines aux États-Unis, dans lequel on va, apparemment en tout cas, de succès en succès. Les budgets ne cessent d'augmenter très très vite, dès les années 48-49. Entre 48 et 53, on passe de 7 stations de la CIA à l'étranger à 47 stations. On passe d'une cinquantaine d'employés pour le bras armé des opérations clandestines à 6000 employés, dont 3000 sous contrat. Les budgets sont multipliés par 25. C'est, si l'on veut, pour l'histoire plus générale de la guerre froide, l'un des points où l'on voit l'intensité de la mobilisation conflictuelle qu'engendre la guerre froide et le déplacement bureaucratico-budgétaire impliqué par la guerre froide. Dans cette période-là, les budgets resteront très importants jusqu'au milieu des années 60.
Mieux vaut que tout cela reste confidentiel. N'en discutez avec personne, ni Marie, ni qui que ce soit d'autre. Ne partagez vos correspondances qu'avec nous. Rendez-nous compte de ce qu'ils veulent faire et quand.
Je n'ai ni client, ni femme, ni pays. Je ne sais pas ce que je fais, ni quand, ni pour qui.
Vous le faites pour votre pays, mais votre pays ne le sait pas encore.
Oui, et mon client, l'autre personne dans cette équation, mon gars.
Votre gars, vous parlez du russe? Ce n'est plus votre gars, maître Donovan. Votre gars, c'est Francis Gary Powers, maintenant.
Il y a un pont dont on fait des films. C'est le pont de Glienicke, qui relie Berlin-Ouest à Potsdam. Il est resté mythique parce qu'on y échangeait les prisonniers entre les deux camps de la guerre froide. C'est le cas de Francis Gary Powers. Condamné à 3 ans de prison et 7 ans de travaux forcés par un tribunal russe, il est échangé 2 ans plus tard contre l'espion soviétique William Fisher alias Rudolf Abel, le 10 février 1962.
Un soviétique, un polnische, zwei tschechoslowakische, sowie ein Kundschafter der DDR kehrten über die Glienicker Brücke in ihre Heimat zu ihren Angehörigen, ihren Genossen, zu ihrer Sache, dem Kampf für die Ideale des Sozialismus und des Friedens.
Au-delà du pont de Glienicke, Berlin est resté dans les mémoires le passage obligé de toutes les opérations d'espionnage. Un carrefour de la fourberie, un vrai nid d'espions.
Berlin était en effet un carrefour d'espions.
Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, la RDA.
Alors la particularité du renseignement est-allemand par rapport aux autres services de renseignement du bloc de l'Est, c'était sa capacité à envoyer à Berlin-Ouest et de l'autre côté, donc en RFA, des espions allemands qui étaient en gros invisibles. à l'œil des autres citoyens ouest-allemands. Et donc, cette capacité qu'ils avaient sous la houlette de Marcus Wolf à envoyer des espions qui allaient pouvoir infiltrer notamment les bureaux de l'OTAN, infiltrer jusqu'au plus haut niveau politique allemand avec le célèbre conseiller Günther Guillaume de Willy Brandt dans les années 70. Il y avait la capacité des Roméo est-allemands à séduire généralement, après une étude psychologique très fine, des secrétaires de certains bureaux de généraux américains ou de généraux de l'OTAN. Il y avait cette capacité des Roméo à séduire les secrétaires et ensuite les utiliser parfois contre leur gré, en tout cas sans qu'elles le sachent vraiment, à les manipuler pour récupérer du matériel d'espionnage. Donc le point fort de la Stasi dans ce contexte de guerre froide, eh bien, c'est de pouvoir proposer des espions clés en main qui n'ont aucun problème en termes de couverture linguistique puisqu'ils sont invisibles. Ils passent sous les radars des services de contre-espionnage. Alors, la Stasi a connu aussi des échecs, il y a eu des fuites, il y a eu des réseaux qui ont été démontés, mis à jour. Mais globalement, elle est considérée comme le service de renseignement extérieur le plus efficace derrière le KGB. Et c'est vrai que au moment le plus tendu de la guerre froide dans les années 50, notamment à l'époque de la guerre de Corée, jusqu'à la seconde crise de Berlin, on voit en fait une concentration d'espions internationaux dans cette ville parce que, bah vous le savez, Berlin, c'est en quelque sorte, entre guillemets, la capitale de la guerre froide. Hein, dans les premières années en Europe, on est au cœur finalement du réacteur et c'est un lieu d'échange, de circulation. Donc on est vraiment là dans une situation assez exceptionnelle.
Comment savoir si je peux vous faire confiance?
Vous l'ignorez? Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un en qui vous aurez confiance. J'avoue à regret que ça ne m'est jamais arrivé.
Le renseignement, d'une manière générale, dans la guerre froide, on peut dire que ceux qu'on appelle aux États-Unis les Cold Warriors, ceux qui mènent la guerre froide concrètement, sont les espions.
Alexandre Riosbord.
La guerre froide quotidienne, en dehors des grands conflits que l'on connaît pendant la guerre froide silencieuse, la guerre froide vraiment au jour le jour, elle est menée par des espions, qu'il s'agisse d'espionnage d'ailleurs ou d'activités clandestines. Alors qui sont ces gens qui mènent cette guerre froide? Ben c'est très difficile à dire. C'est impossible pour les États-Unis, ou extrêmement difficile pour les États-Unis, mais probablement impossible. C'est totalement impossible pour la France, c'est absolument impossible pour l'Union soviétique. On n'a pas du tout accès à ces éléments-là. On peut quand même, à partir de petits éléments, essayer de reconstituer le profil ou les profils qui cohabitent à l'intérieur de ces services. Alors, première catégorie d'individus, qui est la mieux connue, la mieux documentée pour les raisons que j'évoquais plus tôt, c'est ce que les historiens de la guerre froide en général appellent les managers de guerre froide. C'est-à-dire, c'est les gens de la première et deuxième génération des dirigeants de la CIA, qui sont des gens qui viennent du monde des affaires, notamment du droit des affaires, qui sont des avocats du droit des affaires, new-yorkais en général, et qui vont servir l'État, pour la première de ces générations-là, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, au sein de l'OSS, pour une grande partie d'entre eux, et qui, de l'OSS, après une période transitoire, vont entrer à la CIA, et donc vont constituer la première génération de dirigeants de la CIA. Le directeur de la CIA, Alain Dulles, qui dirige la CIA entre 53 et 61, ben, lui, c'est un associé d'une grande firme d'avocats new-yorkais qui s'appelle Sullivan & Cromwell, et qui va œuvrer pour l'OSS à Berne, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va être une des figures même publiques du débat sur la nécessité de la mise en place de services de renseignement professionnels dans le milieu des années 40 aux États-Unis après la guerre, et puis qui va prendre les rênes, d'abord prendre le poste de directeur adjoint en 1951, puis le poste de directeur tout court de la CIA en 1953.
C'est des gars comme vous qui me font peur. C'est des gars comme vous qui font des grandes guerres.
On fait en sorte que ça reste des petites guerres, monsieur Palmy.
La deuxième catégorie d'individus, c'est ce qu'on pourrait appeler des intellectuels. Les services de renseignement, en particulier américains, dès le début des années 50, c'est un monde d'intellectuels. En fait, on recrute des gens qui sont... Parce que la première fonction du renseignement, c'est la collecte, certes, du renseignement, mais surtout son analyse, sa compilation, son analyse et la production d'une matière analytique qui permet de répondre aux attentes du politique, soit à ses questions, soit d'anticiper ses questions en lui donnant du renseignement pour faciliter à la fois son analyse et sa décision. Donc il faut des intellectuels. Et donc la CIA va très vite se tourner, dès 48-49 et de manière massive à partir des années 50, vers des diplômés de l'université. On dit qu'il y a une blague dans certains départements de sciences humaines et sociales parmi les doctorants, quand on dit « mais qu'est-ce que je vais faire si je suis pas recruté dans une université pour faire ses chercheurs ?» La blague, c'est qu'il y a toujours la CIA, quoi. Si tu sais pas quoi faire, tu seras recruté par la CIA pour aller travailler. Et donc, c'est un monde d'intellectuels. Et puis, plus profondément, dès la mise en place de ces services, en tout cas dans le cas américain, il y a la mobilisation de gens qui sont des experts de la chose militaire. Il y a la collaboration avec les services spéciaux de l'armée, collaboration permanente, assez proche. Même si la CIA se dote de ses propres moyens d'action clandestine paramilitaire, évidemment, les expertises sont les mêmes. Et comme dans d'autres domaines, on voit circuler des experts à l'intérieur de l'État américain, entre les forces armées et les services clandestins de la CIA. J'ajouterais un dernier type de profil beaucoup plus divers, qui sont tous les profils liés à des besoins techniques plus momentanés. Parmi ceux-là, pour l'anecdote, on pourra mettre les plombiers du Watergate. Hein, quand il faut ouvrir des portes ou mettre sur écoute, il faut des spécialistes de l'écoute, il faut des spécialistes de l'ouverture des portes, il faut des spécialistes du cambriolage. Bon, tout ça, c'est des profils particuliers aussi dont on dispose.
Une fois rentré chez lui, Francis Gary Powers découvre que des rumeurs courent sur sa santé mentale, sur le lavage de cerveau qu'il a peut-être subi pendant sa détention. Est-il devenu un traître à sa patrie ? Et même s'il n'est pas devenu un agent à la solde de l'ennemi, il a trahi par le simple fait de choisir de rester en vie. Il a refusé ce sacrifice, et avec ça, il a permis d'être utilisé pour humilier l'État et les services de renseignement américains.
Pour les étrangers hein, qui sont séduits par le discours messianiste soviétique, bien sûr, cette puissance idéologique les séduit.
Andrei Kozovoy.
Donc ces gens-là sont persuadés que si on laisse les États-Unis disposer seuls de la bombe atomique, cela pourrait créer un vrai risque pour la paix dans le monde et qu'il s'agit de rétablir l'équilibre, un équilibre nécessaire, en livrant des secrets aux Soviétiques. Donc cette motivation idéologique, elle est très forte dans les années 30. Elle est encore relativement forte pendant la période de la Grande Alliance, évidemment, pendant la guerre. Et puis, elle va progressivement diminuer à mesure que l'on découvre des choses sur Staline, et surtout après 1956, quand Khrouchtchev a lancé sa déstalinisation, qu'il va annoncer publiquement, quasiment publiquement, on va le savoir très vite en Occident, que Staline n'était pas un ange, qu'il avait commis des crimes abominables, visant notamment les membres du parti. Et là, la foi dans le communisme a progressivement s'étiolé, diminué, y compris chez les gens qui pouvaient jusqu'ici être recrutés au service des espions du système de renseignement soviétique. Les services secrets russes vont mobiliser leurs troupes en faisant moins appel à l'idéologie, mais plus à des choses en usant d'arguments matériels, hein, donc notamment l'argent par exemple. Mais c'est vrai que les succès soviétiques pendant la guerre froide dans le domaine du renseignement sont assez considérables quand même. Hein. On a un certain nombre d'espions qui ont travaillé pour les soviétiques, qui étaient déjà présents dans les structures telles que le FBI ou même la CIA, et qui ont livré des secrets considérables aux soviétiques jusqu'aux années 80-90. Le plus connu d'ailleurs, l'un des derniers grands espions de l'époque de la guerre froide s'appelait Robert Hansen. Il était au FBI et lui, il n'a été arrêté qu'au début du XXIe siècle, quand Poutine était déjà président russe.
Le pouvoir soviétique est un mythe. Mais vous, vous avez besoin de garder vivant le mythe russe pour maintenir votre complexe militaire et industriel. Votre système repose sur une Russie perçue comme une menace mortelle. Ce n'est pas une menace. Ça n'a jamais été une menace, ça ne sera jamais une menace. C'est une vieille vache pourrie à l'agonie.
À partir des années 60, on rentre dans un contexte de plus en plus critique.
Alexandre Riosbord.
On change, alors si on prend un concept sociologique, on change de génération. Je pense que c'est ce qui structurellement va expliquer la mauvaise période, entre guillemets, que va traverser la CIA dans la fin des années 60 et surtout dans les années 70, en fait. C'est l'effritement du consensus de guerre froide. C'est plus les générations de la Seconde Guerre mondiale, mais ce sont des générations nées après la Seconde Guerre mondiale, les générations des années 50 qui arrivent à l'âge mature, qui rentrent dans les universités. Tout d'un coup, il y a un point de vue différent qui est porté sur la guerre froide, dont les logiques paraissent moins nettes. Il y a aussi la crise des missiles de Cuba, qui dans ce contexte va jouer un rôle de dramatisation et qui pour les jeunes va être le signe qu'il faut se sortir de cette situation-là. Il y a la guerre du Vietnam, qui va travailler à partir de 64-65 l'opinion publique, qui va avoir graduellement un point de vue de plus en plus négatif sur cette implication au Vietnam. il va y avoir donc une critique générale qui va s'étendre d'abord dans la gauche du spectre politique, chez les jeunes en particulier, puis qui va gagner en audience progressivement, qui s'inscrit encore plus globalement dans un contexte de critique de la société américaine très intense, de mouvement des droits civiques, de critique politique et de critique sociale aux États-Unis. Et donc on critique le gouvernement qui ne fait pas assez d'efforts pour réformer la société, qui de l'autre côté dépense des milliards dans des guerres à l'étranger, dans une politique que l'on commence à appeler, hein, il y a aussi le mouvement intellectuel, impérial. Hein, c'est dans les années 60, une révision complète de l'histoire de la politique étrangère américaine est effectuée dans ce contexte-là par les gens de ce qu'on appelle l'école du Wisconsin, hein, qui démarre dans les années 50, mais qui se déploie dans les années 60, et qui dit que les interventions, notamment de guerre froide, sont en fait un masque, hein, sont en fait un cache-sexe à des interventions qui sont des interventions impérialistes américaines à l'étranger. Tout ce contexte général, qui ne cesse de s'alourdir dans la deuxième partie des années 60, finit par faire basculer l'opinion publique. Bref, ce contexte général commence entre autres à se focaliser sur l'action des services de renseignement. Et donc, en 74, dans ce contexte de plus en plus lourd pour les services de renseignement, va éclater un scandale suite à la fuite d'un document qui n'aurait jamais dû être écrit, qui signale par ailleurs une certaine forme de naïveté de la part des services de renseignement, c'est-à-dire qu'une enquête interne a été ordonnée qui réclame de mettre par écrit dans un seul et unique document l'ensemble des activités des 20 dernières années qu'on pourrait considérer comme illégitimes. Le document est rédigé, donc c'est une enquête interne à la CIA, et puis il fuit. Il est donné à la presse, un peu comme avaient fuité un peu plus tôt les Pentagon Papers. Et dans ce contexte-là, ça provoque évidemment, alors là pour le coup, un scandale. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte général qui est un contexte de critique du gouvernement américain, de critique de la présidence impériale, de critique des dévoiements du pouvoir autour de la figure de Nixon, mais au-delà, de critique de la guerre du Vietnam.
On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Les amis peuvent devenir ennemis et les ennemis amis.
C'était La guerre froide dans nos têtes, épisodes 5 et 6, avec Sandrine Cotte, Emmanuel Droit, Sabine Dulin, Andrei Kozovoy, Julie Richard, Alexandre Riosbord et Marjolaine Boutet. Recherche musicale, Antoine Guyoz. Prise de son, Andreas Jaffré. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Perrine Carvran. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier. Une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hue.